en disant la responsabilité de la caméra, qu'en quelque sorte elle est fautrice d'un assassinat, en quelque sorte, enfin n'exagérons pas, mais quand même une responsabilité de la caméra qu'on ne voyait pas nécessairement tant que ça présente dans notre façon de concevoir le cinéma. Truffaut, dans Jules et Jim, utilise de quantités de plans qui viennent de Paris 1900. Et puis on pourrait dire que Godard, s'il ne cite jamais tant que ça Nicole Vedrès, il pense beaucoup. Et notamment dans 2 fois 50 ans de cinéma, il montre un plan qui est issu d'un ouvrage de Nicole Vedrès qui s'appelle « Images du cinéma français » qui date de 1945, un livre par conséquent sur le cinéma comme on n'en a jamais conçu. Et c'est justement la particularité de cet ouvrage qui ne ressemble ni à une histoire du cinéma, ni à une analyse de film ou à une présentation monographique des différents réalisateurs qui retient l'attention de Pierre Bromberger lorsque dans les années d'après-guerre, 45-46, il demande à Nicole Vedrès de faire ce film qui deviendra Paris 1900. C'est lui qui en est l'initiateur. Parce qu'il avait remarqué sa capacité à dire des choses inouïes à partir de ce que nous savons du cinéma, de ce que nous avons vu du cinéma. Alors il confie à Myriam, la grande Myriam, Myriam Borzutski, le montage, et dit-il qu'il a fait appeler, aussi un jeune garçon du nom de Alain Resnais, puisqu'il n'a qu'une vingtaine d'années, en effet Alain Resnais, qui va être l'assistant de Nicole Vedrès. Par assistant, il faut comprendre ce qu'a dit lui-même Alain Resnais, il était chargé de collecter les matériaux qui allaient, dans leur grande diversité, composer ce film de montage, comme on dit, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est la propriété la plus remarquable de ce film. Non pas qu'elle soit tout à fait la première, pensons à Germaine Dulac, pensons à Esther Schoub, hein, mais qui, elle, avait une volonté surtout d'historienne. Il s'agissait pour l'une de parler de la dynastie des Romanov, et pour l'autre, pour mettre le cinéma, c'est le titre de son film, au service de l'histoire. Donc leur orientation était précise, presque d'historienne en quelque sorte, lorsqu'elles utilisent le cinéma. La réalisation de Nicole Vedrès est plus difficile à caractériser. Et c'est ce qui fait l'intérêt encore aujourd'hui de ce film, dont on n'est pas sûr d'avoir absolument saisi toute la portée, toute la complication, oserais-je même dire. Hein. Bon. Alors, cette nature des images tellement composite, il a pu lui arriver que Nicole Vedrès consacre dans des entretiens avec la presse, dans des articles qu'elle fournit ici ou là, elle consacre pas mal d'anecdotes drôles qui ont émaillé la recherche évidemment de tous ses supports. Bon, ça c'est parce qu'elle est d'une grande modestie et que toujours elle veut se faire passer au second plan, mettre en avant autre chose en parlant du projectionniste qui avait mis de côté telle et telle bande des actualités filmées ou tel et tel gars qui dans son jardin, on est dans les années 46, avait enfoui des bobines de films, sans doute pour les préserver de quelques manœuvres, peut-être de la Gestapo ou de je ne sais qui, enfin bref, des choses sur lesquelles elle insiste pour montrer le côté très époque aussi, hein, très daté, pourrait-on dire, de leur recherche. Mais plus intéressant que tout ça, qui sont des anecdotes toutes piquantes, n'est-ce pas ? Plus intéressant, je dirais, c'est le sort que finalement elle va réserver à ce qu'ils ont trouvé, à ce qu'ils ont réussi à trouver. Elle va faire fond sur cette disparate. Loin d'essayer de la gommer par quelques effets, voyez, de réduction, de l'ambiguïté ou de, je sais pas moi, de réorganisation d'une chronologie, il n'y a jamais de vraie chronologie dans son travail, ou de réaffirmation d'un discours, vous voyez, qui aurait tel et tel objectif, finalité. Non, non, elle fait véritablement jouer, mais c'est un jeu sérieux, la disparité des éléments retrouvés. Elle va en faire même le fondement de la leçon de ce film. Au lieu de réduire cette disparité et de la rendre signifiante, comme on dit, hein, en l'organisant d'une certaine façon, y compris sur le plan historique, elle va au contraire disperser encore plus, si j'ose dire, les éléments qui composent ce film de montage. Or, la chose est intéressante, véritablement, parce que du coup, elle ne respecte absolument aucune des origines. Que le film soit un mélodrame, un burlesque, un policier ou un film à truc de chez Méliès, que ce soit une actualité filmée ou un reportage, elle va les imbriquer de telle façon que leur origine et par conséquent aussi leur sémantisme, voyez, leur signification première, initiale, n'est pas à jouer dans son montage. Ainsi, je vais vous donner un petit exemple tout bête. Ça doit être vers les 33-34e minutes du début du film. Ça vous permettra peut-être de le repérer, mais il y a tant d'autres choses à repérer. Il s'agit d'un court moment d'un film de Louis Gasnier de 1905, première sortie d'un jeune collégien, où il y a Max Linder, mais un Max Linder, je dirais, irreconnaissable, parce qu'il n'est pas encore devenu le dandy, vous savez, en redingote, etc., par lequel on l'identifiera si facilement dans la suite de son œuvre. Il est encore un être un peu banal, si j'ose dire. Et c'est cette banalité qui lui permet à elle de faire oublier que c'est un film de Max Linder tourné par Louis Gasnier, vous voyez ? Et donc, à un moment donné, elle saisit une sorte de calèche à cheval, un fiacre, je ne sais pas trop quoi, qui a l'air de s'arrêter devant une terrasse de café où sont installés des consommateurs. En vérité, il ne s'arrête pas du tout dans le film de Louis Gasnier, mais elle l'arrête. Et à ce moment-là, elle nous demande de remarquer qu'il y a des femmes en robe claire, que c'est l'été, qu'on se rafraîchit, qu'on consomme parce qu'il fait chaud, et elle enchaîne pendant 3 minutes des images qui proviennent de l'illustration de la saison chaude, pourrait-on dire, de la saison d'été. Alors le fait que l'on boive, le fait qu'on use des fontaines Wallace, cadeau d'un milliardaire, vous savez, américain, pour que les Parisiens puissent en effet se désaltérer. Ou bien on va aller au bain de mer, on va utiliser aussi les pissotières qu'on appelait les Vespasiennes en ce temps-là, parce qu'on était un peu plus respectueux, parce que c'est la conséquence du fait d'avoir trop bu, bien évidemment. Donc vous voyez, elle enchaîne comme ça tout un tas de données de la vie pratique, de la vie concrète de ce Paris 1900 et quelques, mais sans souci de respecter le tissu original. Et lorsqu'on retrouve la calèche de laquelle, ou le fiacre, je ne sais pas très bien quelle est cette sorte de voiture, de laquelle descendent les 3 jeunes gens, parmi lesquels il y a ce Max Linder impossible à reconnaître, eh bien, ils sont accueillis par un serveur qui a sa serviette blanche sur l'avant-bras, veux-je dire, et qui ouvre un établissement dont on ne verra rien. Mais en revanche, ça enchaîne avec un tout autre établissement qui est un cabaret nocturne où 3 vieux messieurs à cheveux blancs, en tenue de soirée, ont à leur table une courtisane, une demi-mondaine un peu affranchie, fumant le cigare, enfin, etc., et dans laquelle on peut reconnaître, au besoin, l'actrice Josette Andriot d'un film de Victorin Jasset, La bouquetière de Montmartre. Vous voyez les renversements auxquels elle se livre, puisque des jeunes hommes en goguette, les jeunes collégiens qui sont en sortie diurne, elle aboutit à une sortie nocturne avec 3 barbons d'un âge bien avancé parce qu'ils ont les cheveux blancs et cette courtisane un peu délurée que joue Josette Andrieux. Voilà, les assemblages comme ils sont étonnants et comme ils constituent finalement un esprit 1900. Voyez, et pas simplement la reprise exacte des matériaux. Tout cela pour dire que finalement cette disparité et l'usage encore plus dispersif qu'elle fait par son montage de ce matériau me semble une illustration d'une grande idée philosophique. Elle ne souscrit pas à la frise chronologique. Vous le savez, découpé en étapes bien clairement morcelées et ordonnées en vue d'une linéarité qui est celle de l'histoire, du moins telle qu'on l'a fait jusqu'à cette époque-là. Elle fait autre chose, elle place son film, et ça se voit à peine, il faut avoir l'œil pour le repérer, sous l'égide de la roue, la grande roue, de l'exposition de 1900. C'est-à-dire que ce n'est pas une fresque, vous voyez, ce n'est pas une frise chronologique en effet. C'est ce mouvement circulaire qui peut nous paraître contestable, Pourquoi ne pas respecter les découpages instaurés par les historiens? Ah, qu'est-ce qu'elle a à leur reprocher? En plus, elle est historienne de formation, spécialiste de la Troisième République. Donc, elle sait très bien comment elle pourrait utiliser ce savoir et ses connaissances. Ce n'est pas parce qu'elle est ignorante qu'elle agit ainsi. De même, elle n'utilise jamais l'expression, je regrette que vous l'ayez utilisée, mes chers amis, « belle époque ». Jamais. Elle n'utilise jamais « belle époque ». Tout au plus est-il question, à un moment donné, du bon vieux temps. Mais comme n'importe qui, ma grand-mère dirait, c'est le bon vieux temps, le passé, avec un poil de nostalgie et un rien de regret, vous voyez ? Jamais belle époque. Et je me suis posé la question. C'est le travail de Dominique Khalifa qui a consacré tout un livre à la belle époque qui m'a éclairée. C'est que cette expression, elle a été inventée en 1942, régime de Vichy. Et c'est contraire aux idées de Nicole Vedresse, qui est une progressiste, une humaniste de gauche, évidemment. Donc, elle ne veut pas employer ce terme, et notamment la récupération qu'en fait le régime vichyssois de cette expression, qui va servir à incriminer les désirs de mieux vivre d'une population. L'expression « belle époque », vous voyez, alors hein, vous êtes bien amusés là, hein, comme ça. Puis maintenant, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que ça devient? Vous voyez où ça nous mène, hein? La guerre, les malheurs? Ça ressemble à une punition quasi divine, mine de rien, cette façon de dire. Ce ne sont pas les idées de Nicole Vedresse. Donc elle n'utilisera jamais l'expression de belle époque dans son film, ni dans le titre qui dit Paris 1900, chronique de 1900 à 1914, mais n'emploie pas du tout cette référence. Elle la balaye véritablement. Elle n'en veut pas. Et elle n'en veut d'autant plus pas du tout qu'on est en 1946 et qu'elle se souvient sûrement très bien de l'émergence du mot en 1942 et sous Vichy. Donc elle n'agit pas comme ça. Elle ne croit pas qu'on doive condamner les aspirations des êtres à mieux vivre. Elle ne le pense pas. Si bien qu'elle nous donne autre chose, et ce qu'elle nous donne au moyen de cette manière très curieuse d'utiliser les sources, de ne pas les respecter, de les assembler autrement, je dirais que c'est une image matérialiste de la réalité. Dans ces composantes contradictoires, qui ne raccordent pas toujours, qui ne vont pas du même pas dans la même direction. Bref, sous la roue de l'exposition par laquelle commence son film, il y a juste après l'image la plus matérialiste qu'un philosophe puisse concevoir. C'est un marché. Alors on va dire folklore populaire, le ventre de Paris, etc. Non, non, ce qui est plus important encore, c'est qu'on y voit la diversité humaine, les acheteuses, mais aussi les vendeuses, les hommes en costume comme ceci, ou les portefaix avec leurs tabliers, les uns, les autres, mêlés à la végétation, mêlés, comme il se doit dans le ventre de Paris, à toutes sortes de matériaux, vous voyez ? Et ça, c'est la réponse anticolonialiste à la roue de l'exposition, car on sait que les expositions, hélas, furent assez à la louange du colonialisme, mais avaient pour propriété de présenter de la diversité, certes sur un mode folklorique, et elle répond par le biais de son marché, où on voit apparaître, vous voyez, dans une sorte de réunion, comme ça, des différents éléments du vivant, un peu de tout. Hein, belle image matérialiste. Voilà, vous avez compris que mon enthousiasme est délirant. Et par conséquent, je vous laisse très sagement en compagnie de ce film que vous allez déguster.